carrefour des arts. Théâtre et patrimoine, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui le comédien et metteur en scène Jean-Paul Tribou, qui est à la fois l'un des interprètes et le metteur en scène au Théâtre 14, l'un des théâtres de la région parisienne à la programmation la plus riche, de la dernière grande pièce de Jules Romain, Donogo, pièce qui fut créée en 1930 dans une mise en scène de Louis Jouvet. C'est une sorte de farce pessimiste qui raconte, en des termes qui sont pour le moins actuels, une gigantesque escroquerie immobilière montée en pleine crise mondiale de 1929. Je rappelle au passage que Jules Romain, l'auteur de cette cathédrale romanesque que constituent les hommes de bonne volonté, fut au théâtre l'auteur de Knock, de Volpone, de Monsieur le Trouadec saisi par la débauche, etc., etc. Et qu'à la fin des années 20, il était avec Pirandello et Georges Bernard Shaw, l'un des trois dramaturges de son temps, les plus joués dans le monde. Tout cela expliquant sans doute qu'en 1946, il fut élu à l'Académie française. Jean-Paul Tribou, bonjour.
Bonjour.
Donogo, c'est l'histoire de deux escrocs au fond plutôt sympathiques. L'un, c'est Lamandin, incarné cette fois-ci avec autant de finesse que d'énergie par Jacques Fontanel. C'est un architecte raté au bord du suicide et qui va montrer dans le montage et le déploiement d'une énorme et extravagante escroquerie des dons d'intelligence, de persuasion, d'autorité qu'il ne se soupçonnait d'ailleurs sans doute pas. Et petit à petit, il va se prendre au jeu jusqu'à finir dans la peau, on peut le dire, d'un petit dictateur. Et l'autre s'appelle Margaja. C'est un banquier sans scrupules qui comprend alors là, tout de suite, le parti qu'il peut tirer de la situation. Jean-Paul Tribou, vous incarnez ce personnage avec un humour très bon enfant et un art exceptionnel du second degré qui vous permettent, malgré toutes les turpitudes de ce Margaja, de mettre quasiment le spectateur dans votre poche. Alors, je disais que c'était une farce pessimiste, car non seulement ce sont les méchants qui finalement, méchants entre guillemets bien sûr, hein, qui finalement tirent leur épingle du jeu, mais on voit bien là qu'au fond, il suffit de pas grand-chose, vraiment de pas grand-chose, pour éveiller chez tout le monde la médiocrité, l'envie et la cupidité.
Oui, tout à fait, mais je crois que les méchants, généralement, tirent mieux leur épingle du jeu dans le monde où nous vivons, et dans le monde où vivait Jules Romain, qui n'a pas beaucoup changé, que les bons sentiments. C'est vrai que, globalement, il vaut mieux être agressif, efficace, méchant, entre guillemets, pour tirer son épingle du jeu personnel.
C'est une satire, quand même, de la naïveté et de la crédulité du plus grand nombre, non ?
Oui, certes, c'est une vision assez pessimiste du genre humain, puisque à travers une farce, la création d'un nouveau monde, Jules Romain nous montre que les turpitudes, les envies, les désirs de pouvoir, d'exploitation du précédent par le suivant, restent le même chez les hommes. C'est vrai que l'idée d'un monde nouveau idéal n'a pas l'air de l'effleurer. Il pense que l'humanité reconstitue automatiquement le même monde ailleurs, dans un monde vierge, qu'on retombe quelque part dans les mêmes défauts, probablement qui sont pour lui, et sans doute hélas pour nous tous humains, font partie de la nature humaine profonde.
Vous faites un lien entre Jules Romain et Voltaire, d'une certaine façon ?
Ce sont tous les deux des héritiers des Lumières, bien évidemment. Oui, je pense qu'il y a un côté fable voltairienne dans ce Donogo Tonka de Jules Romain. C'est-à-dire qu'il y a un seul personnage qui soit vraiment un caractère, c'est le personnage de Lamandin, suicidaire au départ, dictateur à la fin. N'oublions pas que ça a été écrit dans les années 30, c'est la montée des grandes dictatures européennes. En plus, je ne sais pas s'il y a une part de hasard ou pas, ce personnage de Lamandin a fait les beaux-arts, il a voulu être architecte et il finit dictateur.
Oui, ça fait penser à quelqu'un.
Ça fait penser à quelqu'un. Or, en 1930, quand la pièce a été créée, Hitler n'était pas encore au pouvoir. C'est 33, hein, l'ascension d'Hitler. Donc, est-ce que c'est prémonitoire ou est-ce que, effectivement, il y a des points de concordance comme cela ?
Alors, vous avez mis cette pièce, on peut le dire, hein, en scène avec beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de créativité. Le texte, le ton sont très actuels. Vous avez changé quelque chose ?
Ah, il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Jules Romain.
Pas un mot.
Non, pas un mot, pas un mot. J'ai coupé avec l'autorisation d'Olivier Rony qui veille sur les droits de Jules Romain. J'ai coupé beaucoup de choses parce que, d'abord, la pièce aurait fait plus de 3 heures. Je n'avais pas en plus.
Là, elle fait un peu moins de 2 heures.
Elle fait un peu moins de 2 heures. Là. Je n'avais pas en plus les moyens techniques de la monter avec 45 comédiens comme ça a toujours été fait. Mais il n'y a pas un mot de rajouter. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des allusions au Crédit Lyonnais ou à la Société Générale. C'est Jules Romain.
C'est dans le texte.
C'est dans le texte. Il y a le passage d'une femme voilée, c'est dans le texte, c'est Jules Romain. Hein. Je n'y suis pour rien.
Moi, je pense pensé, hein, ça n'implique pas le jugement de tous les spectateurs, j'ai pensé en voyant cette pièce que Jules Romain pouvait être l'ancêtre du café-théâtre, au fond, hein, par la farce, des scénettes bien différenciées, un langage très simple, la façon de prendre parfois le public à témoin, on n'est pas loin du café de la gare, quoi.
Oui, enfin, avec la différence que souvent, le café-théâtre, surtout maintenant, je dirais, le café-théâtre, quand il a été créé dans les années 60 par des gens comme Philippe Adrien, par Victor Haïm, etc., était simplement un lieu où on pouvait faire du théâtre quand on ne pouvait pas en fabriquer ailleurs. C'est devenu depuis, j'allais dire, presque un boulevard bobo, souvent une prime à la rigolade, un vivier d'humoristes aussi. Et le café-théâtre joue beaucoup sur l'anachronisme. Là, pas du tout. Donc, je pense que ce qui peut vous faire penser au café-théâtre, dans le bon sens du terme, me ferait plutôt penser à des gens que je n'ai pas connus, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, qui étaient la Rose Rouge, par exemple. Hein.
Ah oui,
la Rose Rouge était un cabaret rive gauche dans l'immédiate après-guerre, dans lequel il y avait les frères Jacques, Yves Robert, Rosy Vart, etc.
Ça,
oui. Les Greniers Husneau aussi ont été une compagnie qui travaillait un petit peu dans cet esprit-là. Et je pense que ce qui donne cette vivacité aussi au texte de Jules Romain, c'est qu'au départ, en 1920, avant même la pièce, il y a eu un projet de film de Gontonka. J'ai eu le scénario entre les mains, il est très inventif visuellement, puisque c'était du cinéma muet, mais ce film n'a jamais été réalisé, mais évidemment, il y a un montage par séquence, et on a essayé de retrouver au théâtre ce montage, comme ça, cette vision. Alors, puisqu'on n'a pas les moyens de faire du cinéma, entre guillemets, ce qui s'en rapproche le plus dans le montage, c'est sans doute la bande dessinée. Et je crois que la mise en scène que nous avons tenté de faire avec mes camarades est quelque part assez proche de la bande dessinée.
Oui, d'où aussi les costumes, enfin tout ça, quoi.
Voilà. Hein ? Qu'est-ce que c'est que les années 30 pour nous, hommes du début du 21e siècle ? C'est souvent des références cinématographiques, littéraires, picturales. C'est pas quelque chose que nous avons vécu.
Alors, le film que Jules Romain n'a pas pu faire, d'autres l'ont fait plus tard. Curieusement, ce sont les Allemands qui ont fait ça ?
Oui, en 1936, il y a eu un film que malheureusement je n'ai pas vu, je n'en ai même pas trouvé trace, qui a été fait par les Allemands avec Raymond Rouleau, acteur français, dans le rôle de l'Amandin, du personnage principal, et un certain Robert Le Vigan, que
voilà,
vous connaissez
oui.
aussi. Qui jouait le personnage du Petit Brun. Voilà.
Alors, le théâtre chez Jules Romain, c'est quelque chose de fondamental, mais ce n'est pas ce qui est le plus connu, enfin, sur un plan littéraire, puisqu'il y a l'œuvre surtout donc, des hommes de bonne volonté. Et pourtant, c'est par le théâtre qu'il est devenu célèbre.
C'est Knock.
C'est Knock. Hein.
C'est Knock.
1923, c'est ça ?
Oui, c'est cela. Mais même maintenant, hein, la seule pièce vraiment populaire, connue par tous de Jules Romain, même peut-être par des gens qui ne connaissent pas le nom de Jules Romain, c'est Knock, avec ses répliques célèbres, ça vous chatouille ou ça vous gratouille, etc. Bon,
il y avait le film quand même avec Jouvet.
Oui, bien sûr, il y a le film avec Jouvet qui est, là, il y a une mémoire du travail parce que la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est qu'au théâtre il n'y a pas de mémoire du travail. Hein. On ne peut pas revoir Donogo tel que ça a été monté
par Jouvet,
alors qu'on peut voir Knock qui l'a joué au théâtre aussi parce qu'il y a une trace cinématographique.
Mais par exemple, vous-même, est-ce qu'il y avait des traces écrites du travail de Jouvet sur la mise en scène de Nonogo?
Il y en a probablement à la bibliothèque de l'Arsenal. Enfin,
mais vous n'avez pas cherché?
Je n'ai pas cherché. Vous savez, quand on s'approche d'un texte, quel qu'il soit, à moins qu'on le fasse en réaction à un autre metteur en scène, ça peut arriver aussi. Mais sinon, on n'a évidemment pas le même rapport en 2009 qu'en 1930 à un texte comme celui-là. C'était un texte d'actualité, ça devient un texte référentiel. Donc, moi, je préférais être vierge, si j'ose dire. Alors, j'ai regardé, bien sûr, qui avait joué les personnages à la Comédie Française. Je sais que le dernier à l'avoir monté à Paris, c'était Jean-Laurent Cochet, début des années 80. Je ne l'ai pas vu, j'aurais pu le voir. Hein. Mais je suis parti totalement vierge sur ce texte.
Vous n'étiez pas le petit garçon, quoi. Vous n'avez pas besoin qu'on vous prenne par la main.
Ce n'est même pas ça. C'est qu'il y a des domaines où n'importe comment... Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mémoire du travail. C'est vrai que personne ne sait comment on jouait Molière. Personne ne sait comment était représenté un spectacle joué par Sarah Bernard.
Il reste des traces sonores. Assez ridicule d'ailleurs.
Qui quelquefois sont difficilement compréhensibles pour nous et qui faisaient la joie de ses contemporains. Vous savez, lorsqu'en 1897, à la dernière répétition de Cyrano de Bergerac, on raconte que Edmond Rostand est allé s'excuser auprès des comédiens de les avoir entraînés dans une telle galère en disant « Je viens de voir la dernière répétition, ça va être un four. » Voilà. Donc, on est toujours surpris par les réactions du public. Quelqu'un disait que le théâtre était une succession de trahisons. L'auteur est trahi par le metteur en scène, qui est trahi par les comédiens, et tout le monde est trahi par le public qui voit autre chose que ce qu'on a voulu faire.
Autrement dit, tout le monde a envie d'être cocu, quoi. C'est ça.
Oui, en gros, c'est ça.
Ce qu'il y a de curieux, donc, premier grand succès, Knock, dernière grande pièce de Nogo. Et vous me disiez récemment qu'en fait, c'est le même type de personnage. Curieusement.
Bien sûr, bien sûr. Et en définitive, c'est un dictateur. Knok est un dictateur. Knok arrive à mettre sous sa coupe une ville entière. On pourrait parler de gourou maintenant, de secte. Enfin, et là, c'est pareil. On parlera tout à l'heure de l'unanimisme.
Non,
je pense que c'est lié directement la manière de, éventuellement, manipuler un groupe social. Ça en fait partie.
Alors, il y a dans l'œuvre théâtrale de Jules Romain, qui est d'ailleurs très prolifique, je vois qu'en l'année 1926, par exemple, il a publié 5 pièces. 5 pièces dans la même année. Mais il y a des choses qui ne passent plus aujourd'hui, non ? Franchement.
C'est vrai que moi, j'ai relu les textes de Jules Romain, parce que je dis, vous savez, les classiques, on dit toujours qu'on les a relus, même quand on ne les a pas lus. Hein, c'est une coquetterie. Donc, j'ai relu Monsieur Le Troadec saisi par la débauche, Le mariage de Le Troadec.
C'est pas très daté.
Ça me semble daté parce que c'est Le Troadec, personnage récurrent qu'on retrouve dans Nogo. Hein, personnage récurrent chez Jules Romain. C'est un personnage qui, lui, est presque un professeur du 19e siècle. Donc, il n'évoque plus grand-chose pour nous et ce n'est pas non plus un caractère suffisamment fort. Ce n'est pas Tartuffe ou ce n'est pas Alceste. C'est un personnage pittoresque.
Oui, c'est ça. Et ça n'a plus qu'un intérêt sociologique, au fond.
Il me semble, oui. Alors, peut-être qu'un acteur génial ou un metteur en scène qui aurait vraiment des idées pourrait ressortir cette pièce. Moi, ça ne m'a pas inspiré. Voilà tout ce que je peux dire.
Alors, par contre, votre personnage, celui de Margaja, là, ce banquier prêt à tout et ce Lamandin... Ça, on en rencontre, je dirais pas tous les jours, Dieu merci, mais enfin, on pourrait mettre des noms là-dessus.
Oui, bien sûr.
On va pas le faire parce qu'on va être poursuivi. On pense, vous comme moi, on pense aux mêmes personnes.
Aux mêmes personnes. Certains ont fait carrière en politique, d'autres dans la finance. Et puis ça doit dater de très longtemps. C'est sous Louis XV qu'il y a eu le système Law, je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Bon, apparemment, c'était le même type de personnage, capable de monter comme ça une escroquerie en pyramide extrêmement séduisante. On peut parler à l'étranger parce qu'on ne s'est pas poursuivi de Madoff. C'est hallucinant quand même. Cet homme savait bien que tôt ou tard ça allait craquer.
Oui. Mais Madoff n'était pas rigolo comme est votre personnage Margaja quand même.
Oui, enfin encore
marrant, que
on n'en sait rien. Alors Margaja, ça dépend aussi bien sûr du comédien qu'il joue. J'en parlais avec Olivier Rony, qui est l'ayant droit de Jules Romain et qui a vu à peu près toutes les versions de Donogo. Il me disait qu'évidemment lorsque Louis Seignier à la Comédie Française le jouait, il n'avait pas la même nature que moi. Il le jouait bonhomme.
Moins drôle qu'avec vous, oui.
Voilà. moi, j'essaye de le jouer escroc sympathique. Mais n'importe comment, le personnage est sympathique au public. C'est une gageure. Mais là, il n'y a pas un seul héros positif dans Donogo. Pas un seul. Il n'y a ou que des crapules ou que des naïfs.
Oui. Mais c'est peut-être en ça que c'est vraiment pessimiste.
Hein. C'est pas un héros social, hein, y en a pas un.
Alors quand on regarde donc ce théâtre comique de la Troisième République, il y a quand même beaucoup de grands auteurs, hein, les Feydeau, les Labiche, les Courtelines, Tristan Bernard, Guitry. Vous placez où Jules Romain par rapport à ces gens-là ?
Question difficile. Il est évident que des gens comme Guitry, Courteline travaillent beaucoup sur la langue, par exemple. Guitry, c'est quand même le roi du mot d'auteur, de la formule. C'est un esprit bien parisien, dirais-je, dans le bon sens du terme, très français. Jules Romain, il y a une vraie qualité littéraire dans l'écriture. Théâtralement, par exemple, les dialogues ne sont pas brillants, vifs, rapides, avec des mots d'auteur qu'on puisse sortir
du
contexte.
C'est une langue simple, c'est une langue très naturelle.
C'est une langue très écrite. Hein. C'est une langue très écrite, mais il a plus envie de peindre une fresque, une épopée. Je crois que n'importe comment, la fresque a été un de ses propos, parce que ces hommes de bonne volonté,
c'est une fresque.
Ouais. La peinture du village de Knok, c'est une fresque à chaque fois. Je ne dirais pas que c'est un caricaturiste, mais presque. En tout cas, les personnages sont assez archétypiques. Le banquier, le médecin, le journaliste.
On revient à la bande dessinée. Quoi.
On revient quelque part, oui, peut-être à la bande dessinée.
Oui. Mais c'est quand même très très bien construit.
Ah oui, c'est très bien construit. C'est en
ça ou c'est contemporain ? Enfin, c'est moderne pour nous.
Oui, enfin, vous savez, alors là...
Les scènes sont bien troussées, c'est structuré, on ne perd pas de temps.
C'est vrai, on pourrait réfléchir là-dessus sur les différentes formes théâtrales. Qu'est-ce qui fait théâtre au niveau des dialogues, par exemple, et c'est quand il y a un enjeu fort. Par exemple, je crois que un des archétypes du théâtre littéraire, c'est l'opposition Créon-Antigone. Deux lois qui ont chacune leur justification s'affrontent intellectuellement et on peut, nous, spectateurs, passer des arguments de Créon aux arguments d'Antigone. Après, il y a des formes très diverses. Là, chez Jules Romain, on n'a jamais le temps de creuser un sujet. Il est déjà très contemporain et très cinématographique parce qu'il passe très vite d'une scène à l'autre.
Vous voulez dire qu'on voit des... Ce sont des silhouettes qui passent, quoi,
ce sont des silhouettes qui passent. Ce sont des silhouettes qui passent et on suit un seul personnage qui est l'Amandin au milieu d'un groupe. Et là, je pense qu'on se rattachera effectivement à la fresque, à l'unanimisme, etc. Le groupe est plus important que l'individu dans le théâtre de Jules Romain.
Alors, curieusement, évidemment pour nous qui gardons surtout Jules Romain en dehors de Knock, le souvenir des hommes de bonne volonté, l'image de quelque chose de très sérieux. En fait, quand on lit les hommes de bonne volonté, on s'aperçoit que la farce et le canular, c'est dans toute l'œuvre de Jules Romain, au nom même de l'amitié. Enfin de,
les quand, copains, hein, surtout.
Jallès, Gerfagnon.
Bien sûr. Qu'on retrouve d'ailleurs dans Donogo, les personnages de Lamandin, de Bénin, de Brouillé reviennent dans Donogo. C'est-à-dire que je pense que Jules Romain a comme ça des personnages qui hantent son œuvre et l'idée du groupe de copains retombe aussi, se rattache aussi à l'unanimisme.
Oui. Alors l'unanimisme donc, c'est le grand mot utilisé pour représenter Jules Romain et avec une œuvre donc colossale, hein, des hommes de bonne volonté, non seulement par le volume, il y en a 27. Il a mis 14 ans à l'écrire, de 1932-1946. C'est le tableau de l'évolution de la France pendant 25 ans, une génération, 1908-1933. Vous, si vous aviez à définir l'unanimisme, parce que c'est un mot qu'on emploie un peu n'importe comment, qu'est-ce que vous auriez à dire de façon simple ?
Vous savez, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Jules Romain. Je suis un modeste metteur en scène confronté à une œuvre.
Il faut la pénétrer de l'intérieur pour arriver à faire
un petit peu
pour la mettre en scène comme ça.
Ce que je crois comprendre. Alors, je connais mal la poésie de Jules Romain, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il a écrit aussi beaucoup de poésie.
Mais il a commencé par ça.
Bien sûr, par la poésie, et justement, l'unanimisme est lié à la poésie. Il a aussi participé à un groupe qui était le groupe de l'Abbaye à Créteil, n'est-ce pas, avec des peintres, d'autres, un éditeur, d'autres écrivains, etc. Et je crois comprendre que l'unanimisme pour Jules Romain, c'est un groupe, c'est l'appartenance à un groupe dans le positif comme dans, dirais-je, le négatif. C'est-à-dire que un groupe, ça peut être par exemple la bande des copains, ça peut être un groupe. Une troupe de théâtre, pour moi, c'est un groupe. Une salle de spectateurs, c'est un groupe. Le village de Knock, c'est un groupe. Alors ce groupe peut être facteur déclenchant, comme dans les copains, parce que par exemple ces canulars peuvent provoquer des réactions, ils peuvent être, je dirais presque situationnistes avant l'heure, hein, en créant des situations, mais il peut aussi être manipulé. Et c'est le cas dans Knock. Le groupe entier, le groupe social, est manipulé par le docteur Knock. La différence, si vous voulez, entre l'unanimisme et, à la même époque, par exemple, la conscience de classe, c'est que l'unanimisme transcende tout cela.
Oui, c'est pas marxiste du tout comme analyse.
Pas du tout. C'est simplement le fait d'être dans un lieu géographique commun à une époque commune. C'est-à-dire, par exemple, vivre dans le même village à la même époque. Qu'on soit châtelain ou cantonnier, on appartient à la même époque et à ce même village à ce moment-là. Donc, on fait partie du groupe. Et alors qu'en tant qu'individu, on est un peu enfermé dans notre petite prison mentale, en tant que groupe, on existe différemment. C'est ce qu'il raconte aussi dans Donogo, en définitive. Hein. Alors, les groupes peuvent aussi s'affronter, se confronter, mais le groupe est au-dessus de l'individu. Et l'individu qui, d'une manière consciente ou inconsciente, appartient au groupe, au même titre que nous deux, aujourd'hui, nous sommes quand même des Européens qui avons vécu au XXe siècle, à Paris, dans un milieu, disons, globalement culturel. Voilà.
Oui, c'est ça. Et la ville, là-dedans, joue un rôle clé, quoi. Qu'elle soit petite, enfin, que ce soit le village, la ville dans Jules Romain,
oui.
c'est la foule, c'est le secret aussi.
C'est
l'amitié, c'est la liberté. C'est quelque chose de très, très moderne. Chez Jules Romain, est-ce qu'on peut faire une comparaison, enfin, vous, tel que vous le percevez, avec la façon dont Balzac décrit la société ou pas ?
Écoutez, je pense qu'on peut faire une comparaison aussi, bien sûr, avec Zola, avec les Rougon-Macquart. Je veux dire, beaucoup d'auteurs se sont confrontés comme ça à la volonté de peindre une époque à travers des sagas, à travers Roger Martin Dugard, avec les Thibault.
Hein, Duhamel voilà. aussi.
Duhamel aussi.
Oui.
Je me demande si on n'a pas un petit peu abandonné ça actuellement au profit d'une écriture blanche, comme on dit, ou plus intimiste. C'est vrai qu'entre la première gorgée gorgée de bière et d'un côté
oui.
et Zola de l'autre, bien qu'on soit à chaque fois dans le naturalisme, on est d'un côté dans une fresque et l'autre dans l'exacerbation du détail.
Est-ce que vous voulez dire que c'est lié à l'évolution de notre manière de lire et notre perception du temps par rapport à la lecture, quoi ?
C'est vrai, possible.
C'est vrai que de rapprocher Delerme de Jules Romain, c'est vrai qu'on voit qu'on n'est plus dans le même univers.
Quoi. Oui, oui,
et pourtant,
oui.
Il y a la même passion de lecture.
Il y a la même passion de la lecture, il y a la même recherche de style perpétuel, la même manière de creuser un sillon. Simplement, c'est pas le même sillon. L'évolution du lecteur doit exister, sans doute, j'ai jamais vraiment réfléchi, je parle là, comme ça, d'une manière un peu impromptue. Je sais que, par exemple, au théâtre, pour faire une comparaison, le spectateur de théâtre du début du XXIe siècle perçoit très très bien les élites accepte le non-naturalisme qui était peut-être plus difficile au 19e siècle. Je mettrai ça sur le compte du cinéma, voire de la télévision. Le cinéma, avec son écriture, a appris au spectateur, a donné l'habitude au spectateur de l'ellipse, du flashback, par exemple, pour ne pas être uniquement dans une continuité. La télévision, par exemple, est le premier médium qui mélange la réalité et la fiction. C'est-à-dire qu'au cinéma, il y avait d'une part les actualités pâtées, et puis après, on voyait le film qui était une fiction. Maintenant, quand on ouvre son poste de télévision, on voit à la fois au JT l'agression d'une vieille dame à Neuilly, et après, une émission policière où il y a l'agression d'une vieille dame à Neuilly. Donc, on ne sait plus où est la fiction, où est la réalité. Et surtout, ça a, par exemple, changé, je pense, le jeu de l'acteur vers un jeu beaucoup plus naturaliste. D'où, de la part du théâtre, une certaine méfiance vis-à-vis du naturalisme, parce qu'on se dit, attention, on n'est pas concurrentiel avec la télévision, avec le cinéma. Donc, adoptons d'autres principes. Ce que nous avons essayé de faire sur Donogo, par exemple, c'est de ne pas être du tout, alors qu'il y a 23 lieux et 50 personnages, on n'est pas du tout dans une convention châtelet naturaliste. Je veux dire, on n'essaye pas de faire croire que vraiment on passe de la jungle brésilienne chez Maxime ou à chaque fois on donne des signes et ces signes sont parfaitement admis et perçus par le public.
Et c'est très simple.
Je ne suis pas sûr que ça aurait été le cas toujours.
C'est très très simple, mais vous jouez merveilleusement des décors et de la lumière. Enfin, il y a un clin d'œil, effectivement.
Il faut
suivre. Quoi. Est-ce qu'on peut dire de Jules Romain, pour vraiment le caractériser, qu'il est le prototype même de l'univers culturel de la Troisième République, quoi, au fond ?
En tout cas, par son parcours, il l'est. Il est exemplaire, même. Je veux dire, il est fils d'instituteur, je crois. Il s'appelle Jules Farigoul. C'est l'école de la République. Il a un parcours, il est pacifiste, il est internationaliste.
C'est normal sup, agrégé de philo.
Normal sup, agrégé de philo. La poésie, le phalanstère de l'abbaye de Créteil. Il est pacifiste, je crois, jusqu'en 1939, à peu près. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces intellectuels qui ont vécu la guerre de 14-18. Il y a d'ailleurs deux volumes dans Les Hommes de bonne volonté sur Verdun.
Atroce,
terrifiant, quoi. Ouais. Ça marque une génération. Hein. Ça marque une génération. Et il est pour le rapprochement franco-allemand jusqu'à l'avant-guerre, enfin l'avant Seconde Guerre mondiale. Il est farouchement européen aussi. Il me fait un petit peu penser aussi à Romain Rolland. Et puis par contre, au moment où tout d'un coup il se confronte en tant que effectivement enfant des hussards noirs de la République, il se confronte à la dictature, il part aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et là il est actif, il s'occupe de propagande, il parle à, je crois que c'est Radio Boston qui devient après la Voice of America, il ne reste pas passif, puis il part au Mexique, en Amérique du Sud, là il crée un institut culturel avec d'autres émigrés français, intellectuels. Oui, je crois qu'il est assez archétypique des intellectuels de la Troisième République, je dirais radicaux-socialistes. Enfin.
Oui, Jules Ferry, quoi.
Jules Ferry.
C'est la création de la nation par la culture, c'est ça ? On peut dire ça ?
Bah, je pense que c'est ça. Il y a eu une vraie volonté de créer une identité culturelle nationale. Hein. Il y a ça à partir de la Révolution, n'importe comment. Moi, j'avais été marqué, on a toujours des références personnelles, il y a très longtemps, j'avais fait une émission sur la bataille de Valmy, où je jouais le duc de Chartres, qui était le futur Louis-Philippe. Donc, je m'étais un peu penché
sur... C'était pas la Brigade du Tigre.
C'était pas la Brigade du Tigre.
Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans la Brigade du Tigre...
J'avais appris à ce moment-là que dans l'armée de Dumouriez, un tiers seulement des soldats parlaient français. Les autres parlaient breton, parlaient béarnais, parlaient occitan, etc. Problèmes d'ordre, etc. Et je crois que pendant la Première Guerre mondiale, encore beaucoup de gens parlaient les langues régionales. Il y a eu, sous la Troisième République, une volonté donc de créer une unité nationale avec une histoire un peu simple. simpliste ou simplifié. On s'est beaucoup moqué de nos ancêtres les Gaulois.
Les Lavis, quoi.
Qu'on expédiait, y compris dans nos colonies. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en effectif, la France avait une volonté intégrationniste, avec une seule histoire pour tout le monde. Contrairement, par exemple, aux colonies anglo-saxonnes, où là, il y avait une séparation entre les natifs et les Anglais. Oui, les Anglais n'ont jamais tenté d'intégrer les indigènes de leur colonie, alors que la France l'a tellement bien fait que, sans doute, le seul pays où les guerres d'indépendance se sont faites contre la France au nom des valeurs inculquées par la France.
Et d'ailleurs, c'est formidable. Vous-même, vous faites un rapprochement que l'on fait très très rarement sur le plan de cette volonté d'intégration quand vous comparez à la littérature, la peinture de la même époque.
Oui, c'est vrai.
C'est curieux, c'est
un constat simplement, même des peintres secondaires. On a beaucoup peint la mythologie, on a beaucoup peint l'Antiquité jusqu'au 19e siècle.
Les pompiers, quoi.
Le terme de pompier, vous savez qu'on les appelait les pompiers parce que pour peindre les héros grecs, mettaient à leur modèle des casques de pompiers parce qu'ils n'avaient pas la panoplie nécessaire. Bon, c'est un petit anachronisme. Mais cette culture de l'Antiquité était liée à une certaine aristocratie. Et donc, il y a eu une volonté de créer des grandes images picturales liées aux Gaulois, quelque part, à nos ancêtres, les Gaulois. Quelque part, c'est un petit peu le syndrome d'Astérix, c'est-à-dire retrouver une identité commune chez le Gaulois, alors que quand même, on avait été vaincu par les Romains, intégré par les Romains d'une manière plutôt positive. Toute notre culture gréco-romaine vient de cela, mais la Troisième République a mis en relief, comme ça, une appartenance culturelle moyenâgeuse aussi. L'époque médiévale est très représentée, enfin. Et ça doit commencer peut-être un petit peu avant. Je ne sais pas si ce n'est pas la fin de Napoléon III. Enfin, voilà.
À cette époque-là. Alors, quand on parle de l'unanimisme, évidemment, on a tendance à présenter Jules Romain comme un doux rêveur. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'avait pas fait gréver, que pendant la guerre, il avait au contraire été très, très actif. Et après-guerre, il a été vraiment marqué, ulcéré, de voir à quel point on avait pu faire déraper ce thème de l'unanimisme vers la dictature, en fait. Et il y a un texte de lui en 1964, « Ai-je fait ce que j'ai voulu ?», où il dit « J'ai le droit de répudier l'unanimisme des régimes totalitaires ». Donc il s'était rendu compte que, au fond, tout ce qui avait porté ses rêves avait utilisé par d'autres, donner des résultats catastrophiques.
Oui, la manipulation du groupe, justement, quand on disait tout à l'heure que le groupe pouvait être positif ou négatif, il s'est rendu compte que la manipulation des groupes, je crois que c'est Tchakotine qui avait écrit en Union soviétique le viol des foules sur les techniques de propagande, les régimes totalitaires manipulent au maximum, et je pense qu'effectivement, on peut détourner une théorie comme celle-là. Je pense qu'il a été très marqué aussi, Jules Romain, par la dichotomie qu'il y a pu y avoir avec certains de ses contemporains qui, eux, ont choisi la collaboration.
Allez à Berlin,
ne serait-ce que le fauteuil auquel il a été élu en 1946.
C'est tout à fait étonnant. Sa réception à l'Académie française est tout à fait étonnante. Racontez ce qui s'est passé.
Je ne peux pas raconter parce que ce qui ne s'est pas passé, c'est-à-dire qu'il n'a pas prononcé l'éloge de son prédécesseur, ce qui est la tradition dans cette vénérable maison, puisque son prédécesseur était Abel Bonnard, qui faisait partie des 6 ou 7 académiciens, je crois, qui ayant été déchus de leur droit civique, de leur nationalité, pour fait de collaboration, avait été aussi exclu de l'Académie française. Et donc, il n'a pas prononcé l'éloge d'Abel Bonnard. Abel Bonnard était rentré, c'était un journaliste, essayiste, auteur, qui a choisi la collaboration, qui, je crois, était au départ maurassien, mais je crois que d'ailleurs vous êtes spécialiste de cette période, donc vous savez ça mieux que moi, mais il s'est séparé au moment de la défaite de Maurras, parce que Maurras s'est resté nationaliste, alors que Abel Bonnard est devenu collaborationniste, il faisait partie du groupe Collaboration, il écrivait dans Je suis partout, et il a quitté la France pour Sigmaringen, comme le raconte Céline dans Un château l'autre. Enfin. Oui.
Alors, c'est la consécration pour Jules Romain à l'Académie française, 1946, et pourtant, on a un peu l'impression que c'est le champ du cygne par rapport au public, par rapport au grand public, parce que aujourd'hui, dès les années 50, il y a peut-être plus grand monde à se lancer dans la lecture d'une œuvre de 27 volumes, donc pour les hommes de bonne volonté, non ?
Oui, probablement. Sur la littérature, je crois qu'il a toujours été, il a toujours eu de fidèles lecteurs. Sur le théâtre,
ouais, avec les copains et des livres comme
avec
ça.
Les copains et des trucs comme ça, des classiques. Mais, c'était un néoclassique déjà, quoi. Mais est-ce que quand on est à l'Académie française, on n'est pas automatiquement un néoclassique? C'est une consécration qui est aussi forcément. On peut pas parler d'enterrement puisqu'il s'agit d'immortalité, mais en tout cas, mais en tout cas, il est certain que tout d'un coup, on vous met une étiquette de classique.
Donc, ce rythme-là n'était plus un rythme d'époque. Mais ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est comment, alors qu'il avait été, donc je le rappelais au début, l'un des trois auteurs des années d'avant-guerre le plus joué au monde, son théâtre, tout à coup, dans les années 60, bon, il est quand même un peu passé à l'as, quoi.
Oui,
pourquoi,
mais ça...
Vous qui avez vécu ça de l'intérieur, vous qui êtes un homme de la décentralisation... Enfin... 80 ça, rôles quand même. Hein,
ça 80. Correspond au moment où, en gros, moi j'ai débuté dans ce métier, dans les années 60. C'est vrai qu'il y a eu une rupture très forte dans le théâtre de cette époque-là, des années 50-60, avec d'un côté l'éruption du brechtisme et de l'autre le théâtre de l'absurde. Enfin, on a appelé ça improprement le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire Ionesco, Beckett, Adamov, etc., qui apportait une forme très très nouvelle de l'écriture théâtrale. Et puis, comme à l'époque, le théâtre pouvait penser qu'il pouvait participer au changement du monde et qu'en plus on était encore quelque part dans l'après-guerre qui espérait, enfin disons que les lendemains qui chantent étaient encore envisageables.
Missionnaire et politique.
Voilà,
quoi.
Missionnaire et politique.
Jean Villard,
voilà,
le TNP.
Voilà, voilà. Il y a une dame qui s'appelait Jeanne Laurent, il n'y avait pas à l'époque du ministère de la Culture, qui a mis en place la décentralisation théâtrale, qui a nommé Jean Villard au TNP. Et ce théâtre avait pour mission d'abord d'apporter à travers le territoire national les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, théâtrale évidemment, et ensuite, il est devenu très très vite un théâtre politique, dans le sens positif du terme, pas politicien. C'est-à-dire un théâtre citoyen, un théâtre dans la cité, mais un théâtre qui pouvait aussi penser qu'il allait participer à la révolution, entre guillemets.
Mais un théâtre qui a regardé très haut les Guitry, les Jules Romain, les
Labiche, Fédot. Balayé, théâtre bourgeois, théâtre de digestion, théâtre distractif, théâtre qui pouvait faire rire. Enfin, Fédot, Labiche, c'était la honte si on montait ces gens-là. Guitry, n'en parlons pas. Et alors, en plus, il y avait ceux qui se revendiquaient de droite, voire fascistes, comme disait Hanouille. Alors là, n'en parlons pas. Hanouille, c'était l'horreur, quoi. Hein. C'était Brecht contre Hanouille, quelque part.
Alors que Jules Romain lui-même, on ne peut pas le cataloguer d'homme de droite.
Ah, pas du tout, pas du tout. Mais il est vrai aussi que sa forme théâtrale était la même depuis le 19e siècle. Je veux dire, c'est encore un héritier. Moi, j'ai monté, il y a 2 ans, la seule comédie qu'a écrit Jean-Paul Sartre, qui s'appelait Nekrassov.
Exactement.
J'étais très surpris de voir que Sartre, en 1956, écrivait comme Guitry ou comme Hanouille. Il n'était absolument pas intéressé par la progression de la forme. Ce qu'il comptait pour lui, c'était de raconter une histoire. Et Jules Romain, c'est un raconteur d'histoire. C'est pas quelqu'un qui travaille sur la forme, sur le langage, comme Beckett, par exemple, ou comme Ionesco. Et comme ce n'est pas non plus un politique au sens brechtien du terme, je pense que c'est vraiment un théâtre hérité des Lumières.
Donc il est rentré au purgatoire.
Il est rentré au purgatoire et il y est toujours d'ailleurs, hein, parce qu'à part Knock, à condition qu'il y ait Lucchini pour le jouer.
Enfin, en tous les cas, votre Donogo marche bien, démarre bien. Au moment où nous enregistrons, nous sommes en novembre 2009, ça marche bien, donc on verra ce que ça peut donner. Mais c'est quand même dommage de voir ainsi, non pas disparaître, mais tenir si peu de place dans la conscience culturelle des nouvelles générations, quelqu'un qui était aussi riche, aussi complexe, à la fois comme homme et comme écrivain, quoi. Parce que son œuvre, c'est une œuvre de cathédrale, quoi. C'est Victor Hugo, c'est Balzac, et quelqu'un qui est capable d'avoir écrit Knock et Donogo et qui, en même temps, a une espèce d'ivresse mystique et religieuse et crée l'unanimisme. C'est quand même étonnant, des personnages aussi complexes que
oui,
ça.
Oui, mais je pense que chaque génération découvre de nouveaux auteurs. Il y a une sorte de tamis historique. Il y a des gens qui sont au purgatoire, puis qui tout d'un coup ressurgissent. Je viens de lire dans Le Monde des Livres de la semaine dernière sans doute un jeune journaliste, et je m'en réjouis, qui a fait un article très très élogieux sur Drôle de jeu de Roger Vaillant. Comme si c'était une découverte, entre guillemets. Roger Vaillant est un auteur qui a eu une énorme importance.
Dans les
années 50-60, qui a été pris Goncourt et qui est actuellement dans un purgatoire total. Plus personne ne lit Vaillant. Pourquoi ? C'est dommage. Je veux dire, c'est un auteur très important, aussi exemplaire du parcours d'un intellectuel au XXe siècle, passant par le surréalisme, le communisme, la drogue, l'érotisme. Formidable, quoi. Vraiment exemplaire.
Alors, vous parliez de décentralisation. Vous êtes un produit de la décentralisation.
génération.
Oui, ce problème de génération, vous savez. Oui, je suis un produit de la décentralisation, effectivement.
Vous êtes rentré au TNP en 70.
Oui.
Ce qui est curieux, c'est que, donc, je disais tout à l'heure là, que vous aviez joué près de 80 rôles, c'est ça ?
Oui, à peu près. Je n'ai pas fait le compte, vraiment.
À peu près. Et vous êtes venu à la mise en scène plus tard. Il a fallu, je faisais des comptes, là, au moins 15 ou 20
oui,
ans.
Oui, je devais avoir 45 ans à peu près quand j'ai fait ma première mise en scène.
Qu'est-ce qui a fait le passage de l'un à l'autre ?
Compliqué à dire. Ça, vous savez, je ne vais pas raconter ma vie parce que ça n'a pas un intérêt fou, mais je n'ai jamais postulé à rien. J'ai toujours saisi des opportunités. Ma première mise en scène, c'est parce que j'avais joué avec Michel Galabru dans un festival qu'il animait, et je lui avais dit, dis donc, Régnard, tu connais le Légataire universel ? Il m'a dit, ah oui, le Légataire universel, je l'ai vu, bon. Et je lui ai dit, si on le montait, et bien, tu saurais le faire, j'ai essayé. Et j'ai monté le Légataire universel, c'était ma première mise en scène avec Michel. Et j'ai découvert, dans la mise en scène, le plaisir, un peu égoïste, d'être leader. C'est-à-dire de ne pas être chef. Hein. Je fais une grosse différence entre le leader et le chef, si vous voulez. Si on se remet à Verdun, Jules Romain, je dirais que le leader, il sort de la tranchée, sabre au clair, et il crie « Suivez-moi ». Le chef, il dit « J'ai des galons, allez-y, passez devant ». Et donc, c'est vrai qu'être leader, c'est pas le plaisir égoïste du pouvoir, c'est que tout d'un coup, on est responsable de tout. On peut pas faire porter le chapeau aux autres. Là, dans Donogo, j'ai choisi la pièce. J'ai travaillé avec la décoratrice sur le décor. Je travaille avec l'éclairagiste. Je suis responsable des costumes. Je suis responsable du choix des comédiens. Je fais de la direction d'acteurs. Moi-même, je joue en plus. Je veux dire, si c'est un succès, ça sera le produit du travail d'une équipe, mais si c'est un bide, j'en suis vraiment le responsable.
Mais vous travaillez, vous, enfin, pour ceux qui vous connaissent bien, vous travaillez en famille, en quelque sorte. On a l'impression que, pour vous, la scène, c'est un travail de famille.
Mais vous savez, c'est
pas physiologique, hein, mais...
Oui, non, mais vous avez raison, c'est un métier, comme d'autres métiers, où il n'y a pas de dissociation entre le temps de travail et le temps de plaisir. Il y a tellement de gens qui attendent d'avoir fini de travailler pour faire ce qu'ils aiment. Nous, dans le théâtre, c'est que lorsque nous ne travaillons pas, que nous sommes malheureux. Donc, quand on travaille, c'est vrai qu'on a conscience de former une équipe. On est toujours surpris quand on voit des comédiens se rencontrer ou des comédiennes dans les bistrots, ma chérie, ils s'embrassent, etc. On se dit, ils en font trop. Non, c'est que c'est un peu comme quand on a fait un voyage ensemble. On a eu peur ensemble, on a travaillé ensemble, on a réussi ou on a échoué ensemble. C'est sur un temps très court, une tournée, un tournage, des répétitions et des représentations. Il y a eu des émotions fortes qui unissent un groupe. On retombe un petit peu dans l'unanimisme là, et donc ça crée des liens forts. Et puis en plus, ce sont des métiers publics. C'est-à-dire que même si je ne vois pas mon copain pendant 5 ans, je sais ce qu'il fait pendant ce temps-là parce que...
Vous le suivez.
Je le suis. Oui. On se retrouve comme si on s'était vu la veille. Et c'est vrai que moi, je travaille effectivement en équipe, si possible avec les mêmes comédiens. Là, il y en a deux nouveaux, par exemple, par rapport à l'équipe précédente. Et depuis, ça fait 20 spectacles que je fais avec le même éclairagiste. Ça doit en faire 10 avec la même costumière et la même décoratrice. On gagne du temps. Et en plus, on a confiance les uns dans les autres. On avance plus vite et on sait dans quelle direction on va.
Et puis en plus, il se passe des choses. Là, par exemple, vous disiez, vous rappeliez qu'il y a une quarantaine de personnages hein, dans Donogo. Or, vous n'êtes que, si j'ai compté, bien compté, vous êtes 8 sur 7 ?
8.
Donc, les 8 doivent faire les 40.
Oui.
Je suppose qu'il y a une autre pièce derrière...
Il n'y a pas de rideau,
mais derrière le décor, il y a une autre
pièce.
Bien
sûr, oui, parce qu'en plus, les comédiens font tout. Ils changent les décors, changent de costume. Bon, il y a une
habilleuse
avec
nous. Comment ça se passe ? Vous rigolez vraiment entre vous, ou vous êtes...
Non, on rigole
pas. C'est millimétré ?
Ah oui, c'est millimétré. C'est répété comme une chorégraphie, si vous voulez, parce qu'il ne faut même pas se bousculer, quoi. Hein. Non, c'est une chorégraphie. Vous savez, quand on tourne au cinéma ou à la télévision des bagarres, par exemple, elles sont répétées comme un ballet. Et bien là, c'est la même chose. Les changements de costume, les changements de décor sont répétés comme des ballets. Voilà, c'est aussi précis. Et s'il y en a un qui se prend les pieds dans le tapis, ça met le spectacle en péril.
Alors, il y a quelque chose de curieux dans votre itinéraire, c'est que c'est curieux et rare. Hein. Vous avez joué et mis en scène à peu près aussi souvent dans le public que dans le privé.
Oui, peut-être une absence de sectarisme et puis une part de hasard, vous savez, de rencontres.
Je regarde, c'est plutôt de l'éclectisme, hein, parce que les auteurs classiques, Marivaux, Régnard, Le Sage, mais en même temps, c'est vous qui avez mis en scène quand même l'une des plus belles pièces de Yasmina Reza. Donc, C'est un choix chez vous, la volonté d'avoir un jardin.
Oui, c'est vrai que c'est un
c'est
choix.
C'est pas un jardin à la française.
Regardez la bibliothèque d'un honnête homme. Moi, je trouve qu'il peut y avoir aussi bien Alexandre Dumas que Guillotin. Il peut y avoir Gaston Leroux et Balzac. Ça m'embêterait de ne pas profiter de l'ensemble du monde. Je ne pourrais pas profiter de l'ensemble du monde, mais j'essaye de m'en approcher au maximum, quoi.
Mais interpréter un personnage comme celui de Marc Gaja, donc banquier sans scrupules, et jouer un personnage essentiel de la Brigade du Tigre, c'est le même plaisir ou c'est...
Oui, bien sûr. D'abord, il y a le plaisir de jouer la comédie. Ça, le plaisir de jouer la comédie, c'est un phénomène difficilement explicable.
C'est quoi ? C'est sortir de soi ? C'est quoi ?
J'aurais beaucoup de mal à expliquer. En plus, je pense qu'il y a autant d'explications que de comédiens et de comédiennes. Chacun a sa cuisine personnelle. Il y a quelque chose de ludique. Vous savez, il existe en français un temps qui me plaît beaucoup, qui s'appelle le conditionnel ludique.
Tiens, qu'est-ce que
oui,
c'est que
le
ça ?
Conditionnel ludique, on a tous utilisé ça lorsqu'on était enfant. C'est dire, alors, on aurait fait naufrage, et puis on serait arrivé sur une île, et là, on aurait trouvé un trésor, etc. Et ben, ça s'appelle le conditionnel ludique. Voilà, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps.
Ça plairait à Michel Déon, ça.
Voilà, oui, ça me plaît beaucoup. Et je pense que, quand même, c'est un petit peu ce que nous faisons en tant que comédiens. C'est rare, au cours d'une vie d'adulte, de pouvoir, en étant sexagénaire, se déguiser tous les soirs comme un Mardi Gras pour interpréter un autre personnage en disant, alors, on serait des aventuriers, on serait arrivé au Brésil, ou je serais banquier. Enfin, ça permet de vivre des vies. Et puis, il y a aussi la satisfaction, simplement, de maîtriser une technique, dire. C'est-à-dire de se dire, tiens, je sais jouer ça, j'ai
le public. Et ça, vous le sentez ? Vous le sentez épidermiquement ?
Ah oui, bien sûr. Vous savez, c'est...
Comment ça se passe,
ça ? Ben ça, c'est le rapport au public.
C'est pas une tarte à la crème, ça. Il y a vraiment un rapport, enfin, vous...
Ah oui, mais c'est pour ça...
Et qui change avec les... De soir en soir ?
Ah, de soir en soir. Et même,
c'est vraiment différent.
Ah, mais totalement différent.
Et vous le sentez, ça ?
Ah, mais c'est palpable matériellement. D'ailleurs, les comédiens qui sont en coulisses quand les autres sont déjà en scène, quand les premiers ressortent, ils disent, alors, comment ils sont ce soir ? Et ce soir, on dit, oh, ils sont pas bons ce soir. Hein. Des fois, vous êtes mauvais, vous, le public. Hein. Puis des fois, vous nous aidez, vous êtes bons. Moi, je sais pas, je ne joue pas au tennis, mais je crois que si on a un bon partenaire au tennis, on est meilleur. Alors, évidemment, c'est pareil, si le public est bon, il nous aide, à condition qu'on soit pas trop mauvais nous-mêmes, évidemment. J'ai pratiqué différents sports et, entre autres, j'ai fait des choses un peu rares. J'ai fait du trapèze et j'ai fait du funambulisme. J'ai même fait, dans le temps, un truc qui s'appelait le Gala de l'Union. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà, les comédiens faisaient des choses. Eh bien, le plaisir de maîtriser une technique, je n'ai jamais été un grand trapéziste, j'ai jamais été un grand funambule, mais le yes I can, eh bien, jouer la comédie et sentir qu'on a attrapé le public, qu'on les tient, qu'on peut faire durer le temps après la réplique, qu'on sait que là, on peut déclencher le rire ou les larmes. C'est un plaisir matériel de maîtrise d'une technique et de satisfaction personnelle, peut-être un peu égocentrique de comédien. Et puis, le plaisir de jouer. J'ai fait un seul spectacle tout seul. Moi, c'est pas mon truc. J'ai envie d'être dans une équipe, j'ai envie d'avoir au moins un partenaire avec qui on échange, parce que même si le public est un partenaire, il n'y a quand même pas cette complicité-là. On ne peut pas essayer des choses, améliorer les choses quotidiennement.
Mais est-ce que ça veut dire que, franchement, vous vous ennuyez quand vous ne jouez pas, ou quand vous ne dirigez pas, ou quand vous ne préparez pas ? Quand vous sortez de l'univers du théâtre, ça vous paraît un peu plat, un peu...
Par exemple, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mon métier. Des tournages à l'étranger, des tournées à travers le monde, etc. etc. Et bien du coup, le tourisme ne m'amuse pas. Parce que quand je fais un voyage en tant que touriste, je suis frustré. Je préfère toujours découvrir une ville en allant y travailler. D'abord parce que j'ai immédiatement des contacts avec les habitants, parce que je ne suis pas touriste, entre guillemets. Alors, heureusement, j'ai une bonne nature. Et dans la vie, je ne veux pas travailler tout le temps. J'ai besoin aussi de rêver, de glander. Je veux dire, je ne conçois pas un peintre qui n'irait pas dans les musées, par exemple, voir les œuvres des autres. Moi, je vais au théâtre. Vous savez, lorsque François Truffaut a fait ce film sur le cinéma, c'était une équipe de tournage. Eh bien, le jour où ils ne tournaient pas, ils allaient tous au cinéma.
Ça, c'est assez merveilleux.
C'est assez exemplaire.
Mais pour revenir, en terminant, à Jules Romain, s'il y avait une seule chose à retenir de Jules Romain, vous, tel que vous, le percevez avec la passion que vous avez pour lui, pour son œuvre. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune là, qui nous écoute ?
Je dirais commencer par lire Les Copains. Je pense que c'est le plus jubilatoire et sans doute le plus accessible de ses livres. Et à partir de là, je pense que vous aurez envie de découvrir le reste. Les Hommes de bonne volonté, c'est un gros morceau. Moi, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai lu quelques volumes, mais je me réserve le plaisir de le lire. Je veux dire, je pense qu'on peut lire Jules Romain pendant des années. Il ne faut pas essayer de se faire les 27 volumes à la suite. Enfin, en tout cas, moi, je n'en suis pas capable. Mais avancer peu à peu. Et puis, je ne sais pas, reprendre un volume tous les 6 mois, peut-être un vrai plaisir. Et puis, peut-être creuser aussi, parce qu'il y a des textes que moi, je ne connais pas.
Voilà. Puisque vous parlez des copains, effectivement, l'œuvre de Jules Romain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une... il a le culte de l'amitié, de l'amour. J'ai trouvé cette phrase qui révèle peut-être tout ce que vous venez de dire là. Jules Romain écrit ceci: car trois copains qui s'avancent sur une ligne n'ont besoin de personne, ni de la nature, ni des dieux.
Très beau. Très, très beau.
Jean-Paul Tribou, merci. Je rappelle que vous avez mis en scène et que vous interprétez donc la dernière grande œuvre théâtrale de Jules Romain, Donogo, qui date de 1930, donc une farce. Une farce, oui, c'est une farce, mais c'est quand même plutôt pessimiste sur le fond, et qui est à l'affiche de l'excellent Théâtre 14 jusqu'au 2 janvier 2010. Et comme ça marche bien, la tournée va s'enclencher derrière et probablement aussi le retour dans un autre théâtre à Paris.
Nous l'espérons.
C'est ce qu'on vous souhaite. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.